Vous écoutez, on lit pour vous.
Un peu de magie dans l'ordinaire. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse. Défi bonheur en 30 jours. Être heureux tous les jours grâce à 5 gestes quotidiens. 15 petites habitudes qui ont un grand impact. Les suggestions du genre pullulent ici et là en ligne, mais aussi en librairie. Elles finissent souvent par nous faire de l'œil et, si c'était vrai, est-ce que s'offrir des fleurs ou apprécier le chant d'un oiseau peut vraiment avoir un effet sur nos vies de fous, ponctuées par ailleurs de tracasseries constantes? Il faut dire que, si les motifs d'irritation ne manquent pas, les petites joies non plus. À chacun la sienne. À preuve, le New York Post a publié à l'automne un sondage de la firme Talker Research réalisé auprès de 2000 Américains pour savoir ce qui les réjouissait le plus au quotidien. Comme il était financé par la Journée nationale du café, on ne sera pas surpris de voir la bonne tasse de café ici mentionnée. N'empêche que les réponses ne sont pas sans intérêt. Ainsi, en tête de liste, les répondants ont indiqué « se réveiller après une bonne nuit de sommeil et revoir un vieil ami ». Entre autres mentions, « entendre sa chanson préférée par hasard à la radio, l'odeur de biscuits qui sortent du four, écouter la pluie tomber, parler au téléphone sans compter les heures ». Ça vous parle? Vous n'êtes pas seul. Chose certaine, ces joies ne laissent pas indifférente Juliette Bélanger-Charpentier, militante bienveillante et experte en victimologie, qui a publié en 2022 « Bleu et joie ». K.O. Édition, une sorte de journal de réflexion à la suite de sa séparation. Je sortais d'une année de séparation. J'avais eu beaucoup de bons irritants et pour traverser ça, il fallait que je m'accroche à l'infini petit. L'infini petit qui n'est pas si petit. Juliette Bélanger, Charpentier, autrice. De quoi s'agit-il? Faute de mieux, elle opte ici pour le mot anglais « glimmers » pour évoquer ces petits moments doux qui teintent nos quotidiens en rose. Conduire les fenêtres ouvertes, se réchauffer devant le feu, trouver du sable dans son maillot, énumère-t-elle dans son livre. Ça sonne un peu kitsch, dit-elle en riant au bout du fil, mais un rayon de soleil le matin, quand on s'y attarde, c'est un petit moment hyper précieux. Vrai, dans nos vies cordées serrées, on a tendance à accorder davantage d'attention aux désagréments. Un bus bondé qui nous file sous le nez, et voilà la journée qui commence du mauvais pied. J'ai l'impression qu'on est aveuglé des fois et qu'on a tendance à effacer les moments hyper importants. Les glimmers, c'est vraiment ça. Des moments précieux qu'on peut facilement balayer parce qu'on n'y prête pas attention. Une magie ordinaire. Que dit la science? Ésotérique tout ça ou véritablement scientifique? Ça dépend, répond Bassam El-Khoury, psychologue clinique et directeur du McGill Mindfulness Research Lab, un centre de recherche sur la pleine conscience et la compassion. Je ne pense pas que chaque petite joie ait une valeur en soi. Est-ce que le chocolat chaud est bon pour l'humeur? Est-il nécessaire? Probablement pas. A-t-il des effets négatifs? Peut-on généraliser? Non, la démarche scientifique ne permet pas de démontrer les vertus universelles et hors de tout doute du chocolat chaud sur notre morale, comprend-on. Mais cela ne veut pas dire que le chocolat chaud ou le chocolat tout court, et notre expert peut en témoigner, soit sans intérêt. Tout le contraire, en fait. Parce qu'il peut y avoir une valeur subjective à ce que Bassam El-Khoury appelle « les stratégies d'apaisement », expression plus scientifiquement correcte pour nos fameuses joies. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose de subjectif, explique-t-il, qui permet la régulation des émotions. Une douche, un bain, une marche, du chocolat, un toutou, un thé, parler à un ami, c'est quelque chose qui apaise un sentiment douloureux. Ce peut être n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas destructeur, dit-il, excluant de facto alcool et drogue du tableau. Et comment ça fonctionne? Quand une personne est irritée, dit-il, que ce soit à cause de la température, de la pluie, de l'auto qui ne démarre pas, elle vit une émotion négative. Probablement que le sourire d'un bébé ou une photo de chat, de chiot, moi c'est mon lapin, j'adore mon lapin, introduit une émotion positive qui redirige l'attention ailleurs. La stratégie d'apaisement amène une redirection de l'attention qui peut induire une émotion positive, diminuer, voire remplacer l'émotion négative. Bassam El-Khoury, psychologue clinique et directeur du McGill Mindfulness Research Lab. Et combien de petites joies ou émotions positives faut-il au quotidien pour faire contrepoids aux fâcheuses émotions négatives? Je n'ai jamais lu combien il en fallait. Mais cela dépend des émotions négatives. Ce qui rend ça difficile, c'est qu'avec les émotions négatives, il y a un engagement cognitif et cela rend l'émotion plus forte à cause de la rumination. Cette rumination peut carrément annuler l'effet de l'émotion positive. Si votre vidéo de chat vous fait sourire, mais que vous repensez aussitôt au chaos de la chambre de votre ado, exit aussitôt les effets bénéfiques de votre stratégie d'apaisement. D'où l'intérêt de la méditation, signale d'ailleurs l'expert, laquelle permet une distance et un détachement de toutes ces pensées intrusives et un véritable apaisement. Et pourquoi ces joies et ou stratégies variées, du bon petit café à cet instant de méditation, ont-elles tendance à nous apaiser? Bassam El-Khoury relie le phénomène à la question de l'autocompassion. C'est la capacité d'avoir une relation positive avec soi, dit-il. Cela crée un lien positif avec soi-même. Je prends soin de moi. Il y a plus. En prenant soin de soi et en réduisant ce faisant l'effet des sources d'irritation, on réduit du même coup notre stress. L'autocompassion a ici des effets positifs non seulement sur notre santé psychologique, mais aussi sur notre santé physique, fait valoir l'expert. Parce qu'on le sait, le stress induit pratiquement toutes les maladies physiques et psychologiques. Bassam El-Khoury, psychologue clinique et directeur du McGill Mindfulness Research Lab. Nul doute, selon lui, qu'on ait tous intérêt à cultiver ici et maintenant nos petites joies, quelles qu'elles soient. C'est une très bonne résolution ou intention à prendre en cette nouvelle année. Je préfère le mot bouddhiste « intention ». C'est une bonne intention. C'est prendre soin de soi, dit-il, et si je me sens mieux, mes relations avec les autres vont être meilleures aussi. Qui dit mieux? D'ailleurs, Juliette Bélanger-Charpentier a-t-elle survécu à son année irritante? « Absolument, reprend-elle, cela m'a permis de me dire, d'autres choses existent. Oui, la vie peut être difficile, mais il y a toutes sortes de choses qui, si on y fait attention, font une différence. S'attarder à ce qui a l'air ordinaire mais ne l'est pas fait vraiment une différence sur la perception du moment présent. Est-ce là la fameuse recette du bonheur, alors? Je ne sais pas s'il y a une recette, conclut-elle. Mais c'est ma meilleure stratégie pour me sentir bien. » C'était « Un peu de magie dans l'ordinaire », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse.
La tech s'invite au chevet de la santé mentale, un texte de Thomas Urbain, paru le 6 janvier 2025 dans La Presse. Détecter l'anxiété, prévenir la montée du stress, voire gérer une crise de panique, l'industrie technologique propose désormais de plus en plus d'appareils dédiés à la santé mentale. Parmi les start-up présentes sur ce créneau au Salon de la Tech grand public, qui s'ouvre mardi à Las Vegas, Nevada, la Suisse Nutrix, qui a lancé CortiSense, capable de mesurer le niveau de cortisol, souvent appelé hormone du stress. Un petit objet cylindrique, terminé par une languette, permet de recueillir, sans crachat et sans tube, de la salive, qui est directement analysée par l'instrument. Après quelques minutes, les résultats sont consultables via une application mobile. Un concurrent, EnlySense, utilise, lui, des patchs qui absorbent quelques gouttes de sueur avant d'être glissés dans un lecteur portable dont les données seront également présentées dans une application. Citation : Jusqu'ici, il n'y avait pas d'outil pour contrôler son taux de chez soi. Fin de citation, explique Maria Hahn, fondatrice de Nutrix. Citation : Si vous vouliez mesurer la production de cortisol, il fallait aller à l'hôpital ou envoyer des prélèvements. Fin de citation. En cas de résultat trop élevé, Nutrix propose une mise en relation avec des professionnels de santé pour apporter une réponse adaptée par consultation. Maria Hahn voit CortiSense comme une couche supplémentaire de paramètres, complément de l'écosystème existant de Nutrix et leur plateforme G-Sense, qui compile des données sur le sommeil, le poids, l'activité physique et l'évolution du taux de glucose. Si l'objet sera accessible à l'achat direct par des particuliers, la directrice générale voit surtout le modèle se développer autour des assureurs santé, voire organismes publics, mais aussi des entreprises. Dans cette dernière configuration, l'utilisateur conservera la propriété de ses données personnelles, mais elles pourront être agrégées à celles d'autres salariés pour observer le niveau de stress d'une équipe ou d'un service. Sur la base de ces informations, citation, l'entreprise pourra, par exemple, décider d'accorder davantage de congés. Fin de citation, imagine Maria Hahn. Citation, ces appareils n'administrent pas de traitement, mais ce sont des produits complémentaires qui peuvent aider pour la détection ou faire un premier diagnostic. Fin de citation, observe Julie Colzet, psychologue new-yorkaise. Respirer contre l'anxiété. Le BeMind de la Française Barracoda possède une caméra intégrée en mesure d'identifier des signes de stress ou de fatigue, puis de proposer, le cas échéant, un temps de relaxation avec images et musiques apaisantes. Camille Gault va plus loin avec son petit engin d'apparence semblable à un inhalateur pour asthmatique qui tient dans la main et s'utilise en cas de crise de panique. Sa patronne, Addy Wallach, a voulu, citation, « créer un produit que l'on peut emmener partout et qui permet de calmer une crise sans avoir besoin d'une autre personne ou d'un médicament. » Fin de citation. L'utilisateur place sa bouche comme sur un inhalateur et respire à la cadence définie par des signaux lumineux. Grâce à l'intelligence artificielle, le rythme défini est propre à chaque individu. Outre la respiration, la machine, déjà écoulée à plus de 100 000 exemplaires aux États-Unis, stimule 4 des 5 sens avec des signaux lumineux, une vibration physique qui produit aussi un son et des effluves apaisantes pour se détacher d'un état d'anxiété. Le procédé active le système nerveux dit parasympathique qui ralentit l'organisme et aide à réguler les émotions. Calmigo a réalisé une étude clinique sur d'anciens combattants sujets au stress post-traumatique, TSPT, en collaboration avec l'hôpital de la faculté israélienne Reichman University. Elle a montré une baisse de l'anxiété et des symptômes du TSPT après quelques semaines d'utilisation, et, selon Addy Wallach, certains patients, citation, ont pu cesser leur traitement médicamenteux. Fin de citation. Au CES, les visiteurs croiseront également Romy, le petit robot de table ou de chevet, citation, que beaucoup, au Japon, utilisent pour calmer leur anxiété et leur sentiment de solitude. Fin de citation, selon son concepteur, Mixi. Dans la vidéo de démonstration, Romy répond à sa propriétaire frustrée après une nuit de travail inutile par une boutade, lui propose de regarder un film pour se détendre et le tour est joué. Citation. Peut-être qu'avec l'émergence de plus en plus d'appareils sur le marché, davantage de gens s'intéresseront à la thérapie. Fin de citation, imagine Julie Colzet. Elle ne croit pas, en revanche, à la capacité d'un robot et plus généralement de l'IA de répondre aux causes profondes de l'anxiété ou du mal-être. Citation. Les patients veulent quelqu'un pour les guider, dit-elle, se sentir compris et en terrain sûr. Je ne pense pas qu'un robot puisse faire ça. Fin de citation. C'était La tech s'invite au chevet de la santé mentale, un texte de Thomas Urbain, paru le 6 janvier 2025 dans La Presse.
L'intelligence artificielle au service des aînés en perte d'autonomie, un texte d'Héloïse Archambault, paru le 6 janvier 2025 dans le Journal de Montréal. 30 minutes de sport par jour, des protéines à tous les repas, un cercle d'amis, il est possible de rester en santé jusqu'à 100 ans. Le journal vous propose des trucs simples et réalistes pour repousser la maladie et les secrets de centenaires sur leur longévité. L'intelligence artificielle pourrait révolutionner bientôt la façon de soigner les aînés pour leur permettre de rester à leur domicile plus longtemps, en meilleure santé et à un coût moindre. C'est comme si on passe de la dactylo à un ordinateur superpuissant. On change nos méthodes de travail, constate Philippe Voyer, professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et expert des soins aux aînés. C'est évident que la technologie est essentielle pour le futur. Tout le monde cherche des solutions pour combler le manque de personnel et le vieillissement de la population. C'est un outil de plus pour soutenir le réseau de la santé, ajoute Nathalie Bière, professeure en ergothérapie et chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, IUGM. Voilà plusieurs années que des chercheurs travaillent pour adapter l'intelligence artificielle, IA, au service des aînés en perte d'autonomie. Selon M. Voyer, toutes sortes de technologies pourront être déployées à grande échelle dans les prochaines années. Avatars qui rappellent des tâches à accomplir, conversations assistées personnalisées pour aînés déments, rappels de prise de médicaments connectés avec la pharmacie, caméras pour détecter les chutes. Le spécialiste souligne que les questions de confidentialité et de sécurité informatique freine l'implantation. Il y a plusieurs pointes d'innovation, mais on n'a pas encore un téléphone intelligent avec plein d'applications. C'est encore en pièces détachées. Philippe Voyer, professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et expert des soins aux aînés. C'est très lourd comme processus pour protéger les gens, avoue Monsieur Voyer. Or, les experts sont unanimes, les aînés sont favorables à l'assistance technologique. Le désir d'une personne de rester à domicile crée de l'ouverture envers les technologies, ajoute Sébastien Gaboury, titulaire de la chaire de recherche du Canada en intelligence ambiante et capteur portatif pour l'assistance technologique en santé. Il faudra voir c'est quoi les compromis. Jusqu'où on peut aller? Selon les experts, ce virage techno sera rentable à long terme. Une place en CHSLD coûte 110 000 $ par année et dans une maison des aînés, 140 000 $ par an, selon M. Voyer. Si la technologie permet d'éviter des visites à l'urgence et des hospitalisations, toute la société y gagnera. Un logiciel compile tout. D'ailleurs, un appartement qui semble à première vue tout à fait standard a été converti à cet effet à l'IUGM. Au total, une centaine de capteurs sont installés un peu partout. Cuisine, salle de bain, électroménager, porte, pour enregistrer le moindre mouvement. On utilise la domotique qu'on tweak avec de l'intelligence artificielle pour comprendre ce que fait la personne dans sa vie de tous les jours, explique Mme Bière, qui travaille sur ce projet pilote depuis 2016. Un logiciel compile les données pour déterminer plusieurs choses. Combien de temps l'aîné dort-il? Se lave-t-il régulièrement? Se fait-il à manger? Jusqu'ici, une centaine d'aînés de Montréal ont pris part au projet pilote de l'IUGM. Pour le CLSC, un tel système permet de mieux donner des services ou d'éviter des déplacements. Des fois, on envoie des préposés juste pour surveiller, parce qu'on n'est pas sûr, plusieurs fois par jour, précise Mme Bière. C'était l'intelligence artificielle au service des aînés en perte d'autonomie, un texte d'Héloïse Archambault, paru le 6 janvier 2025 dans le Journal de Montréal.
La danse comme remède à l'isolement des personnes atteintes de Parkinson, un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 7 janvier 2025 dans RCI. Larry Wins, passionné de danse de salon, a bien cru pendant un instant que la maladie de Parkinson lui volerait son dernier pas de danse. Or, c'était avant que sa femme et lui ne découvrent un cours de danse à Regina destiné aux personnes atteintes de cette maladie. Ça avait été difficile d'abandonner, se remémore Larry Wins, avant de découvrir les classes de Dancing with Parkinson's, danser avec la maladie de Parkinson. Sa femme et lui sont tombés en amour avec cette nouvelle façon de se déhancher. Une fois qu'on est rentré dans la danse, c'était génial, raconte-t-il. S'il reconnaît qu'il est un peu plus lent dans ses gestes qu'auparavant, cela ne l'arrête pas. C'est formidable de rencontrer d'autres personnes et d'autres couples, en particulier ceux qui sont dans la même situation et qui combattent la maladie de Parkinson. Une citation de Larry Wins. Rassembler les gens. L'une des personnes qui enseigne ce cours de danse, Heather Cameron, souligne l'importance d'amener le plus grand nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ainsi que les proches aidants et leurs familles, dans ses classes pour les sortir de l'isolement. Selon son collègue, Tess Kuz, de plus en plus de recherches démontrent les bienfaits de la danse, particulièrement chez les personnes atteintes de cette maladie. Après un certain nombre d'années passées à danser avec des personnes de tous les âges et de tous niveaux, on commence à réaliser que la joie est vraiment l'essence de la danse, affirme-t-il. Le cours peut améliorer la cognition, la mobilité, la coordination, l'équilibre et faire sécréter des hormones de bien-être. Une citation de Tess Kuz, instructeur de danse. La formule de cette danse va au-delà des cours en personne, puisque l'organisme offre aussi des sessions en ligne. Le cours à Regina a commencé à la fin de l'année 2024 et se terminera en juillet. C'était « La danse comme remède à l'isolement des personnes atteintes de Parkinson », un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 7 janvier 2025 dans RCI.
Mode d'emploi pour une meilleure humeur. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse. Les petites joies stimulent nos hormones du bonheur. Ce n'est pas un mythe. Les petites joies ont tendance à mettre du soleil dans nos vies, en annihilant tranquillement ce qui nous irrite. Les petits bonheurs quotidiens ont pour fonction de diminuer notre niveau de stress et d'améliorer notre humeur, confirme Christine Grou. Comment? En stimulant nos hormones du bonheur. La sérotonine, qui régule les émotions, la dopamine qui active le circuit de récompense, l'endorphine, hormone du bien-être, et l'ocytocine, hormone de l'amour et de l'attachement. C'est pourquoi les petits plaisirs nous font du bien et réduisent l'importance des irritants. À chacun sa joie. À noter qu'il n'y a pas de petites joies universelles. Elles sont plutôt propres à chacun. Pour certains, ce sera le piano, un roman léger, une série télé. J'aime beaucoup les séries qui font du bien, lance Christine Grew, citant Les Mecs, L'œil du cyclone, Lâcher prise, Rumeur. Je ne serai pas stressé en regardant ça. Je vais assurément sourire. Ce sont des séries qui font rigoler. Pour d'autres, il s'agira de chanter, danser, savourer un rayon de soleil. Les petites joies, c'est ça, leur vertu. Elles équilibrent l'humeur et régulent les émotions. Christine Grew, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Deux conditions à respecter. Mais toutes les petites joies ne se valent pas. Deux conditions fondamentales doivent être ici respectées. La première, il ne faut pas que nos joies entrent en conflit avec nos objectifs à long terme, dit Christine Grew. Si vous souhaitez ultimement bien manger et être en parfaite santé, mais que votre petite joie est de vous goinfrer de cochonneries, il y a sans doute matière à soucis. Il ne faut pas que ça compromette les projets à plus long terme. Deuxième condition, il faut profiter de sa petite joie sans pensées intrusives, poursuit-elle. Si vous prenez une pause d'étude toutes les 2 heures pour prendre un bol d'air bienfaiteur, mais que chaque fois vous ruminez tout ce que vous n'êtes pas en train d'accomplir, ça ne marchera pas, dit-elle. Il faut apprendre à contrôler ces pensées intrusives. Les gens qui s'exercent à pratiquer la pleine conscience vont mieux y arriver. Se donner le droit. Au lieu de vous demander ce que vous devriez être en train de faire, posez-vous cette question. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? L'important, c'est de s'octroyer des plaisirs au quotidien. Ce n'est pas normal de n'avoir aucun plaisir. On ne sera pas détendu du tout. Il n'y a pas de recette magique. L'important, c'est l'équilibre et l'auto-bienveillance, conclut-elle. C'était « Mode d'emploi pour une meilleure humeur », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse.